frères et sœurs, je vous salue, les uns et les autres. Nous pourrons suivre les éléments de l'enseignement sur l'écran. C'est commode, ça aide à garder le fil. Qui sommes-nous pour dire ce que c'est qu'une foi authentique ? D'abord, nous ne sommes pas les juges de la foi des autres. Mais, dans la parole de Dieu, nous avons des éléments qui nous aident à évaluer d'abord notre propre foi. Hosanna, dans les lieux très hauts, mais moi j'aimerais que ce soit Hosanna dans les lieux très bas, ici. Et entre, il y a des différences des fois. Le culte est là pour que ça descende. Le culte, j'en ai besoin parce que je suis fragile, aussi dans ma foi. Le culte, j'en ai besoin pour recentrer ma vie sur l'essentiel et sur la vie. Vous, non ? Nous sommes exposés à tellement de choses dans cette société dans laquelle nous vivons, qui nous formatent, qui nous influencent plus qu'on le croit. En plus de ce qui vient de l'intérieur, il y a un tas de choses qui viennent de l'extérieur. Alors ça fait du bien de recentrer notre foi dans la prière et la louange, et ça fait du bien de recentrer notre foi sur le projet de Jésus, périodiquement, régulièrement, comme quelque chose que je veux. L'épître de Jacques, déjà épître, c'est une lettre générale. On devrait la ranger dans les épîtres générales. Seulement, c'est écrit pour des gens dans une situation particulière. Et nous sommes dans une autre situation particulière. Vous et moi, frères et sœurs, sommes dans un contexte, un bain commun, mais chacune de nos vies a une situation particulière. Ce n'était pas du temps de la démocratie. Ce n'était peut-être certainement pas non plus du temps de l'abondance, du plein emploi. C'était un temps spécial. Nous allons pénétrer dans l'épître de Jacques comme quand les Mélans, la semaine dernière, nous ont pris par la main, Elisabeth et moi, on dit « on va vous faire découvrir Lausanne ». Dieu, que ça fait du bien quand on n'est pas de là, que quelqu'un nous dise « ici, il y a une bibliothèque, super ». Ah oui, je commence par la bibliothèque. « Ici, il y a la Migros et puis la COP ». Et puis, ici, il y a un tas de bâtiments très importants pour les papiers. Mais comment ils font les gens à qui on ne prend pas la main pour dire « tu vois, c'est ça, c'est là ». Eh bien, on fera, et je me propose aujourd'hui, de faire de même avec l'épître de Jacques. J'ai un petit appareil qui peut me permettre de passer. Avant de continuer, de tout cœur, j'aimerais remercier la communauté, l'Église de Villars, pour le chaleureux accueil qui nous a touchés et encouragés, Elisabeth et moi, de dimanche dernier. Plusieurs d'entre vous se sont excusés parce qu'ils n'étaient pas là, mais ça vous permet de voir ce qui s'est passé. Un petit peu. Jacques, serviteur de Dieu, et du Seigneur Jésus, le Messie. C'est clair, non ? Plus clair, vous ne trouvez pas, hein ? C'est grosso modo ce à quoi tous les chrétiens sont engagés depuis le témoignage de leur baptême et entrée dans l'Église. Claude, serviteur ou servante, si vous êtes une sœur de Dieu, et du Seigneur, Jésus, le Messie. Il est tellement connu, ce monsieur, qu'il n'a même pas le souci de se présenter plus. Et ça ne nous aide pas maintenant. Tellement il était connu, il n'avait pas besoin d'en dire plus. Mais nous, 2000 ans après, on a des problèmes. Qui c'est ce Jacques ? On y viendra. Et comment il continue ? Il dit aux 12 tribus dispersées du peuple de Dieu, réjouissez-vous ! Dans nos versions, salut. Mais non, salut, c'est un peu faible pour réjouissez-vous. Dans la dispersion, réjouissez-vous. Moi, dans la dispersion, j'ai des problèmes. Ce n'est pas agréable dans la dispersion, loin de chez soi. Il était connu, ce Jacques, il dit simplement Jacques pour se présenter. Aux 12 tribus dans la dispersion. Ça, c'est un canular. Hein ? Parce que les 12 tribus, depuis le 8e, 9e siècle, ça n'existe plus. Depuis l'exil, on ne sait plus qui est de quelle tribu, et même les 10 tribus du Nord, ils sont dispersés, ils ressemblent à des Assyriens maintenant, ils sont acculturés avec d'autres cultures religieuses. Il restait une et demie, voire deux tribus, et même celles-là, en partie, sont revenues, et on ne sait plus de qui est de qui, de Juda et Benjamin. Aux 12 tribus, mes amis, ça, c'est... faut le faire, hein ? Ça veut dire quoi ? À l'entièreté du peuple de Dieu, de toutes les nations. Réjouissez-vous. On fait partie d'un plan qui a commencé avec Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, ça a commencé. Vous le saviez ? Ça a commencé et ça continue. Réjouissez-vous. Mais maintenant, le problème, c'est qu'ils sont dans des situations d'épreuve. Et il leur dit, et il est gonflé, réjouissez-vous. On va y réfléchir. Alors, ceci ne va pas nécessairement vous édifier tout de suite, mais je vais y venir. Quel est ce Jacques ? Est-ce que c'est un inconnu ? C'est possible, mais cet homme-là était connu et respecté, ça on le sait par la tonalité de toute sa lettre. Est-ce que c'est le frère aîné de Jean, le grand frère de l'apôtre Jean, qui est appelé avec son frère Jean, fils du tonnerre ? Ah, ceux-là, on les reconnaît bien, hein, les fils du tonnerre. Il est mort vers 44 de la main de ses frères juifs non messianiques. C'était des années, on ne se rend pas bien compte ce qui s'est passé en Palestine, Israël de l'époque. La même synagogue, un courant juif messianique en Jésus et un courant qui refusait cette messianité. La tension qui pouvait exister pendant ces années, entre 30 et 70, on ne se rend pas bien compte. On oublie. Mais c'était encore une synagogue, à tel point qu'au chapitre 2 et au verset 2, dans Jacques, il est dit « Mes frères, ne mêlez pas, etc. En effet, s'il entre dans votre synagogue, chapitre 2, verset 2, dans nos Bibles, c'est « s'il rentre dans notre assemblée ». En grec, « s'il rentre dans votre synagogue, un homme au Bagdog, d'or, etc. » Vous savez, la synagogue et l'église n'étaient pas encore entièrement séparées. Il y avait des synagogues à majorité messianique en Jésus et des synagogues qui doucement se dessinaient en disant « Non, pas ce Jésus comme le Messie. Pas sa paix là. » D'autres disaient « Si, c'est sa paix. » Vous saisissez ? Tension. Pas agréable. Et ajoutez à ça que la partie du judaïsme qui ne reconnaissait pas en Jésus le Messie refusait que les autres juifs, messianiques en Jésus, puissent être exemptés de l'impôt au temple païen qui était dû par tous les citoyens de l'Empire romain. Bonjour les épreuves. Pas qu'une partie de plaisir. Et Jacques, on le comprend quand on comprend le contexte dans lequel il est. Le frère aîné de Jean dit « Jacques le majeur, celui peut-être, mais ça me paraît être un gros canular aussi, de Saint-Jacques de Compostelle. » Je ne veux pas dire qu'il n'est pas allé en Espagne, peut-être. Mais après, ce qu'on en a fait, c'est juste un décalage de Jésus, de trop. Ceci dit, marcher, ça fait du bien, y compris sur ce chemin. Jésus avait un autre apôtre qui s'appelait Jacques, fils d'Alphée. Un autre apôtre, Jacques dit le mineur. Vous excusez le mineur, je ne sais pas en vertu de quoi on se le permet, mais voilà. Et ensuite, il y avait un autre Jacques, le frère du Seigneur. On sait que du temps du ministère de Jésus, ses frères, sous frères, c'est comme au Congo, ça peut être le cousin, ça peut être le frère. Je ne sais pas ce qu'il en est de la Côte d'Ivoire. Quand on dit un frère, ça peut être une famille un peu plus élargie, je ne sais même pas. Ah, il peut même ne pas être la famille biologique, c'est le frère. Ben, c'est pas la Suisse, hein. Mais vous voyez, attention à ce qui nous vient d'abord à l'esprit. On sait qu'il y a eu peut-être un cousin, peut-être un demi-frère. Si Joseph était marié avant, qu'il était veuf, je ne sais rien. On ne sait rien. D'accord ? En tout cas, il est dit le frère du Seigneur. Ses frères à Jésus, en tout cas, ils s'opposaient à Jésus. Il lui dit, toi, tu fais des miracles, va donc tout de suite à Jérusalem pour manifester que tu es le Fils de Dieu. Il le provoquait. D'accord ? C'est marqué dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, vous pourrez le voir. Il ne croyait pas en lui, nous dit l'Évangile. Et puis, ce qui est intéressant, dans l'Évangile selon Jean, pardon, où il disait « ne croyait pas en lui », c'est que tout d'un coup, après la résurrection du Seigneur Jésus, son frère s'est mis à croire en lui, le frère de Jésus. Mes amis, ce qui a dû se passer dans sa tête, à la résurrection de Jésus, a chamboulé sa vie, à tel point qu'il devient une colonne, un pilier de l'Église primitive. Vous le voyez bien dans Marc 13, dans Acte 15, le Concile de Jérusalem, c'est Jacques qui prend la parole, quasiment à la hauteur de Pierre. Peu importe si ça déplaît à certains. Ici, un personnage important de Jérusalem, la tradition ancienne dit que ce serait l'auteur. On l'appelle Jacques le Juste. Juste, pas parce qu'il est impeccable. Il dit bien, frères et sœurs, nous bronchons tous d'une certaine manière par la parole. Il se met dedans. Et quand il dit « soyez parfait », il ne veut pas dire « impeccable ». Il veut dire « soyez intégralement présent dans ce projet ». Jacques. Et quand vous lisez Jacques, et que vous lisez l'enseignement de son frère, la doctrine de Jésus, ce qu'il a enseigné, vous voyez le diapason. Il n'utilise pas les mêmes mots, mais Dieu que ça fait du bien d'avoir des lettres pour quand ça va mal. Ce dernier, au ce concile de Jérusalem, où ça a dû chauffer, hein, est-ce qu'il fallait circoncire ou non les non-juifs qui venaient se joindre au peuple de Dieu ? Ça a chauffé, hein. C'est ce Jacques qui était aussi d'avis de ne pas accumuler d'obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. Jacques, une pointure. Il est mort, lui, on le sait, par Joseph, l'historien, martyr, décapité dans sa foi par ses frères et sœurs biologiques. Lui aussi. Il a rejoint le Seigneur, mais il sait que la mort n'est pas le dernier mot. Il l'a appris par son frère. Il écrit avant une kata des kata, pour un juif, la kata des kata, l'an 70. Déjà en 68, ce que Jésus avait dit, qui se réaliserait, ça se réalise. Combien de fois j'ai voulu te rassembler, Jérusalem, mais tu l'as pas voulu. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Cette génération ne passera pas. 30 plus 40, on est à 70. Une sorte de fin des temps y vivent au jour du carnage, dit Jacques. On ne se rend pas bien compte dans quel contexte Jacques écrit, mais quand on se rend compte, tout devient lumineux et on se dit « Ah, mais je comprends pourquoi il aborde ces choses. » On continue. Il est mort martyr. Nous sommes dans ce qu'on appelle le judéo-christianisme. Aujourd'hui, ce genre de réunion s'appelait assemblée, mais le mot assemblée, c'est le même mot que synagogue. Synagogue, ça veut dire venir ensemble. Que veut dire assemblée ? Que veut dire ecclésia en grec ? Tirer hors d'eux. Ça veut dire assemblée. Sauf que c'est grec, alors que assemblée, synagogue, c'est le projet de Dieu, du peuple de Dieu dans la dispersion. Alors, avec cet éclairage, on peut relire l'épître de Jacques. Et on avance. J'aimerais vous parler courtement, mais en 2002, il y a une histoire. Un ossuaire. L'ossuaire dit de Jacques, trouvé à Jérusalem, et d'abord, pas par les archéologues, mais chez les antiquaires, c'est toujours sympathique. Il y a toujours anguille sous roche, cet ossuaire pourtant, une courte inscription en araméen qui dit « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Bon, je vais faire court. D'après le graphisme des lettres, l'inscription semblait authentique et longtemps les gens disaient « Ah !» Donc Marie a eu plusieurs enfants. Donc, pas de naissance virginale, donc beaucoup de provoques, des mois partout, hein. L'apôtre Jacques est effectivement cité comme étant son frère, vous vous souvenez, dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Une enquête de la police scientifique israélienne révéla qu'il avait confectionné l'antiquaire ou transformé les objets bibliques, notamment l'affaire des stèles censées provenir du temple de Salomon. On cherche ce genre de choses, vous ne pouvez pas imaginer. Et en décembre 2004, deux ans après, l'homme fut accusé de contrefaçon avec trois autres complices, une perquisition permit de remonter jusqu'à un atelier où il faisait avec des vraies antiquités des fausses indications, notamment qu'ils avaient ajouté tout ce qui suit le mot Jacques, frère de Jésus. Comme quoi, ne vous laissez pas ébranler, des fois, même par ce qui semble être des preuves archéologiques. Et pourtant, l'archéologie est importante. Mais les faussaires, ça a toujours existé. Jacques fut mis à mort à Jérusalem en 62-61. 6 ans plus tard, les troupes nationalistes violentes, du Salut violent, deux troupes rivales ont pris Jérusalem. Les troupes romaines ont trouvé ça insupportable et ont décidé de faire le grand ménage. Heureusement, à cause de la prophétie de Jésus, l'église messianique, la synagogue messianique avait quitté. Quand tu verras ces choses, que celui qui est sur la terrasse ne rentre même pas pour faire sa valise, mais qui fuit. Vous connaissez les évangiles. Je vous ai montré ceci, il me paraît importante. Moi, je reviens en arrière. Frères et sœurs, cette identité, elle est extraordinaire. L'identité qui est là, c'est Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi l'occasion de me demander, est-ce que mon identité en Christ est rafraîchie ? Si cette identité n'est pas rafraîchie, nous serons menés à tout vent de peur, de compensation dans la vie, surtout quand il y a des épreuves. J'ai connu des gens, ils étaient jeunes, ils voulaient un fiancé, ils voulaient un particulier, et ça n'est pas arrivé, et depuis ils sont mordus par la tristesse. J'ai connu des gens, ils voulaient un poste particulier, briller sur les autres, et c'est pas arrivé, et du coup c'est comme si toute leur vie avait pris une claque, et ils étaient tristes. J'ai connu des gens, ils étaient mariés, et puis il y a un des conjoints qui est décédé, et ils ont pris une claque de tristesse qui les a accompagnés jusqu'à sa mort. Ça s'appelle la tristesse mondaine. C'est une maladie chrétienne mondaine, ce n'est pas une maladie païenne. Les païens suisses ou français normaux, on ne peut pas dire qu'ils sont mondains, c'est normal, non ? Mais vous voyez ce que je veux dire, quand un recentrage n'a pas lieu clairement entraîné, les épreuves vont nous donner une claque à notre foi. Et c'est à cause de ça que l'apôtre Jacques écrit sa lettre à l'Église dans sa dispersion. Pour que dans l'épreuve, Dieu les rejoigne. Jésus n'a jamais dit « Je te dispenserai de toutes les épreuves et tous les miracles que je vais te donner, ça va t'aplanir le chemin pour qu'il n'y ait aucun problème. » Jésus a dit « Je serai avec vous dans l'épreuve tous les jours aussi. » Mais il n'y a pas que des épreuves. Alors d'accord, hein ? Il n'y a pas que des épreuves. Heureusement, Dieu soit béni. Et il ne faut pas oublier de louer Dieu quand ça va bien. Jacques, une identité spirituelle claire. Incrédule du vivant de Jésus, Jean chapitre 7, c'est là, au verset 5, qu'on voit très bien l'attitude moqueuse des frères de Jésus. Et culbuté par la résurrection, recentré et chamboulé. Et moi, j'ai des frères, hein ? Trois. Et il me faudrait du temps hein, pour que je reconnaisse en l'un de eux le Messie. S'il le prétendait, il me faudrait plus que du temps. Jacques, le style qu'on trouve ici, vous savez, c'est encore du meilleur grec que l'apôtre Paul qui était un éduqué. C'est du grec classique, super, avec des mots très fins. On dirait pas en lisant Jacques, on dirait que c'est un truc de paysan moyen, hein ? Non, pas du tout. C'est très fin. Sans doute qu'il avait un secrétaire qui lui a mis ça pour que cette lettre circule. Aux 12 tribus dans la dispersion. Vous savez, je crois que ces 12 tribus dans la dispersion rejoignent ce que l'apôtre Paul, avec ses mots, je parle un peu aux connaisseurs du Nouveau Testament. Les autres, vous pouvez juste revenir dans deux phrases. Quand Paul dit tout Israël sera sauvé. C'est de ça dont il parle, les 12 tribus. Mais c'est des gens de la dispersion depuis longtemps, depuis 8 siècles. Vous comprenez ? Que le Saint-Esprit saisit de parmi les nations et qu'il ajoute à ces Juifs qui ont reconnu en Jésus le Messie et ensemble ils font tout Israël. Vous comprenez ? Le peuple de Dieu, les héritiers des promesses faites à Abraham dans l'épreuve, parce que la dispersion, c'est l'épreuve. C'est donc une épître générale. On trouve à peu près la même chose au début de la lettre que Pierre adresse. Dans 1 Pierre, il dit « aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion ». Vivre en étranger quelque part, c'est pas simple. Si quelqu'un ne nous prend pas par la main en disant « Nous t'accueillons, fais partie de notre famille, comme vous l'avez fait dimanche dernier avec nous. » Ça devrait être une marque de la foi authentique, la capacité d'accueillir autrui. Entre 44 et 61, 62 après Jésus, à la mort de Jacques, ces tensions sont ici et là, plus ou moins fortes selon les lieux. On a vu ça. Alors, voici le programme. Jusqu'en janvier, Dieu voulant, l'année prochaine, nous aurons 6 rencontres avec celle-là. L'introduction, j'aimerais avec vous voir le chapitre 1 dans 2 semaines. Plus tard, un amour agissant sans distinction. Le doux peut montrer le chemin à l'Église, chapitre 3. L'origine des conflits dans l'Église, chapitre 4, et heureux qui croient sans voir encore, ou alors l'espérance au cœur large, chapitre 5. Voici le menu, si vous voulez chez vous lire en avance, je serai content, et j'espère que dans les petits groupes ici ou là, on puisse arriver à des choses un petit peu plus précises dans le texte qu'on n'aura pas abordé simplement dans le survol de la prédication. Vous suivez ? Bienvenue. Je prie que je puisse m'adresser à tout le monde. Mais je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne tout. J'interviens, j'aimerais le dire à mes frères et sœurs aînés. Je suis heureux de participer au service dans une église où il y a pluralité d'intervenants. Vous m'avez entendu ? Il se trouve simplement que je suis un peu piégé. Il y a quelques mois, j'ai dit oui pour la cadence des prédications. Je ne me rendais pas compte que c'est peut-être plus que ce que vous avez l'habitude pour une seule personne. Alors il faudra me supporter jusqu'en janvier. Maintenant, j'aimerais faire une lecture. Et puis, la leçon que j'aimerais qu'on retienne au fond, en plus de celle qu'on a déjà vue, elle est simple. Prenez de très bon cœur, mes frères, les diverses épreuves par lesquelles vous passez, sachant que le test auquel votre foi est soumise, elle, produit de l'endurance. Mais que l'endurance soit parfaitement opérante, afin que vous soyez parfait, c'est-à-dire accompli en amour. Hein, parfait, ce n'est pas impeccable, c'est juste pour que vous relaxiez. Afin que vous soyez parfait, ça veut dire adulte en amour. Afin que vous soyez parfait et accompli, exempt de tout défaut. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, alors qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans comptabilité. Elle lui sera donnée. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, c'est pareil. Hein. Mais qu'il la demande, ou qu'elle la demande, avec foi, sans éprouver le moindre doute, car celui qui doute ressemble à la houle marine que le vent soulève, que ce personnage, quand il demande, ne s'imagine pas que le Seigneur donnera quoi que ce soit à un homme dit psychos, partagé, fluctuant dans toutes ses démarches. Que le frère de condition modeste tire sa fierté de son élévation dans la synagogue messianique, hein, et le riche qu'il tire sa fierté de son déclassement, parce qu'il passera comme la fleur des prés. Souvenez-vous, l'an 70, qu'est-ce qui se passe ? Les propriétaires, là ? Il passera comme la fleur des prés. Car le soleil s'est levé avec le sirocco et a desséché l'herbe dont la fleur est tombée et dont la belle apparence a disparu. De la même façon, le riche, dans ses entreprises, se flétrira. Heureux l'homme, la personne, qui endure l'épreuve, parce que, une fois testé, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. Que nul, quand il est tenté. On est tenté quand on a des épreuves, dites-moi. Et comment ? On y viendra. Que nul, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation, ça vient de Dieu. » Car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondé, c'est comme une naissance, une conception, la convoitise enfante le péché. Et le péché arrive à la maturité, engendre quoi ? La mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout ce qui est un cadeau de valeur et tout cadeau parfait descend d'en haut du, ça c'est un drôle de nom, Père des Lumières. Les lumières, ce sont les étoiles. Les étoiles, c'est ce qui bouge. Vous avez déjà vu des étoiles fixes ? de celui qui bouge pas, le père de ce qui bouge, des stars, le père des stars, le père de ce qu'on regarde et qu'on peut convoiter, du père de lumière, chez lequel il n'y a ni balancement ni ombre due au mouvement, lui, stabilité. De sa propre volonté, Dieu, le père des lumières, nous a engendrés par la parole de vérité, c'est-à-dire Jésus, afin que nous soyons, pour ainsi dire, voici notre identité, frères et sœurs, je vais le dire, et je termine par là, la lecture, dans les mots même de Jacques, prémices de ces créatures, c'est l'ecclésia, c'est la synagogue messianique. Prémices, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont venir. Prémices de ces créatures. Le début d'une nouvelle création. Ça, c'est ce qu'on oublie quand on est dans l'épreuve. Le sens de ce pourquoi je souffre. Ça me fait du bien de me souvenir que le Seigneur me prend au sérieux, jeune ou moins jeune, femme et homme, de quelque âge et situation que ce soit, pour dire « J'aimerais passer par toi pour que la bénédiction d'Abraham continue par toi. » Prémisse de ces créatures. Seulement quand on souffre, on oublie ce pourquoi nous sommes appelés. J'ai trouvé au Québec une statue. Quand on est dans l'épreuve et qu'on souffre, est-ce que ce n'est pas la réaction naturelle? C'est moi là en bas. C'est moi. Et je sais qu'on pourrait, depuis ma naissance, me mettre un panneau ici, fragile. Vous pas? On pourrait me mettre un panneau ébranlable. Vous pas? Jacques sait très bien ce dont nous sommes fabriqués. Voici le catalogue des réactions. Quand je suis dans l'épreuve, je peux soit me résigner, « Seigneur, je sais que tu m'as pardonné mes péchés, mais là, c'est un peu gonflé, c'est un peu trop, Seigneur. J'attendais tes bénédictions et voilà des pépins. » Et du coup, je témoigne plus parce que j'ai plus envie. C'est ce qu'on appelle la tristesse mondaine. Je suis encore dans l'Église, hein, mais je suis plus disponible. Je suis, vous vous souvenez de la statue? Je suis là, dans l'Église. La deuxième, Seigneur, ceux qui m'ont fait, c'est tellement injuste, je cultive l'amertume. Et je ne vous dis pas, quand on cultive l'amertume, moi je montre ici, je ne sais pas, mes sœurs vous montreraient, ou les frères c'est généralement ici, hein, au niveau de l'estomac. Je cultive ça et j'amène ce climat dans mon couple, dans mon voisinage, dans mon travail, dans l'Église. On va reparler de l'amertume dans l'épître de Jacques, qui mène au retrait. Et des fois même à la révolte violente. Je ne vous dis pas, ces cocottes minutes quand elles explosent. Et on n'aime plus les 12 tribus qui sont dans la dispersion, le plan de Dieu par l'Église. Et Dieu n'a pas de plan B. Il n'y a que ce plan A. Il n'y a pas prévu un plan B. Et on fait un plan B violent. C'est la tentation des frères de Jésus, de certains, fils du tonnerre et zélotes. Nationaliste, violent. Ou alors, s'éloigner de Dieu. Ça s'appelle, dans l'épître de Thessaloniciens, d'un drôle de mot religieux, l'apostasie, c'est-à-dire quitter sa place de foi. Ou on s'éloigne de l'Église, de la communion de l'Église. Ou alors, on recherche et cultive ce que Jacques donne comme cadeau, qu'il demande à Dieu qui donne sans faire de comptabilité, la sagesse. La sagesse, c'est ce qu'il me faut dans une situation donnée pour que je reste fidèle au Seigneur et que je comprenne le sens de l'épreuve dans laquelle il me donne, il me place. La sagesse, une tranquille confiance en Dieu, à demander à Dieu, Demandez, restez dans la dépendance du Seigneur. La force de tenir n'est pas en nous, même pas dans le meilleur d'entre nous. La force de tenir, elle est dans la communion de l'Église, dans ce à quoi je m'expose, mais dans le Seigneur, Dieu de la vie. Alors il va parler de pouvoir tenir, de la patience qui reste active selon Jésus, pas selon les pharisiens. Parce qu'elle sait que nous faisons partie d'un plan que Dieu mène, celui de révéler la foi. Le test de votre foi, c'est de révéler la solidité de Dieu en vous. Je comprends à quoi servent des épreuves. Ça parle de l'Évangile bien mieux, quelqu'un qui est dans l'épreuve et qui tient fort, que quelqu'un qui n'aime Dieu que quand tout va bien. Quelqu'un qui aime Dieu que quand tout va bien, tout le monde peut vous vendre ça. Mais quelqu'un qui tient dans l'épreuve et au travers de l'épreuve, mes amis, c'est rare comme le diamant. C'est à ça que Jacques se révèle. Dieu est en train de, par nous, les prémices, de rassembler le peuple international de Dieu composé de juifs et des nations. Et il n'a pas fini ce programme et la grâce nous est faite d'en faire partie. Alors, j'ai pris un copain, et pour que vous ne le reconnaissiez pas, je l'ai flouté. Il est en train de manger une glace. Et puis, je me suis dit, attention, frères et sœurs, aux compensations. Si je reviens en arrière, je reviens ici en arrière, les épreuves, la demander la sagesse, la manière de traiter la richesse, les tentations, écouter et ne pas la réaliser, ça se comprend mieux quand on est des êtres tellement fragiles que l'on compense. Et l'épître de Jacques nous dit, frères et sœurs, et Claude, pasteur, n'importe qui, fais attention à ta manière de compenser par toi-même dans toutes sortes de domaines de la vie. Ceci, ce sont des mécanismes que des psychologues peuvent expliquer, mais qui ont déjà été dits par Jacques avec ces mots. Je conclue. Demandez à Dieu la sagesse. Restez dans sa dépendance. Pour notre bonheur. Dans toutes les situations. Veillez aux compensations mondaines. La convoitise qui amorce, qui nous amène à des situations de mort. Regardez, et là, c'est l'entraînement. Et ça, ça ne m'est pas donné naturellement, à moi en tout cas, comme une joie complète et pas comme des malédictions. Les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, car Dieu est à l'œuvre et son plan se poursuit. Amen.